Je voudrais aujourd'hui vous aider à découvrir un prophète dont on parle trop peu, un homme au langage direct, parfois sarcastique, toujours pittoresque. J'ai nommé le prophète Amos. Si je vous propose de parler de lui, c'est exclusivement pour étudier son style oratoire. C'est surtout pour faire ressortir le message extraordinairement actuel qu'il proclame. Situons d'abord le personnage dans son cadre historique et psychologique. La Bible nous dit qu'il était berger, originaire de Tekoa, à 9 km au sud de Bethléem. Lorsque Dieu le choisit comme porte-parole, le royaume d'Israël est divisé. Nous sommes au 8e siècle avant notre ère. Au nord, 10 tribus forment le royaume d'Israël proprement dit. À l'époque d'Amos, le roi était Jéroboam II, la capitale Samarie. Au sud, 2 tribus formant le royaume de Juda, son roi Ozias, sa capitale, Jérusalem. Pendant tout le cours de l'histoire de ce royaume ainsi divisé depuis Salomon, Dieu suscitera plusieurs prophètes qui exerceront leur ministère les uns au nord, les autres au sud. Ainsi, tandis qu'Amos prêchait au nord, en Israël, précédant de peu le prophète Osée, 2 autres prophètes se manifestaient au sud, dans le royaume de Juda. Il s'agissait de Ésaïe et de Michée. En ces temps-là, les deux royaumes jouissaient d'une période de paix, de liberté et de prospérité. Les armées étaient puissantes et, comme on aimait à le croire, invincibles. Les limites du royaume avaient atteint celles que s'était fixées David. On avait beaucoup d'argent et on dépensait beaucoup. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, cette prospérité cachait des signes certains de décadence. Le mal s'était installé sous toutes ses formes, le mépris de Dieu et le mépris de la justice. Mais n'anticipons pas. Voici comment notre prophète dénonce le mal. Le message d'Amos à Israël eut la soudaineté d'un rugissement de lion, avec tout le danger qu'un tel rugissement annonce. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. D'abord, Amos attire l'attention d'Israël sur Damas. Les foudres de Dieu tomberont sur les Syriens à cause de leurs crimes. Puis ce sera le tour de Gaza et de Tyr, voisine de Sidon. Et tandis que le prophète énumère ces nations étrangères aux frontières d'Israël et les calamités que Dieu leur réserve, on devine l'approbation réjouie d'Israël, qui estime que Dieu est juste dans ses sentences. Ceux qu'il a choisi de punir l'ont bien mérité. Quant à eux, Israélites, ils n'avaient rien à se reprocher, donc rien à craindre. D'ailleurs, n'était-il pas le peuple de Dieu? Attitude pharisaïque avant la lettre. Mais Amos n'en reste pas là. Son message n'est pas épuisé. Voilà que les malédictions s'abattent sur les cousins d'Israël, les Édomites, descendants d'Ésaü, frère de Jacob, les Ammonites et les Moabites, descendants de Lot, neveu d'Abraham. Chaque fois, la terrible promesse, aussi sinistre et solennelle qu'un arrêt de mort, est précédée de cette phrase redoutable: Ainsi parle l'Éternel. Les cousins seront donc frappés aussi. Après tout, si Dieu les condamne, c'est qu'ils le méritent aussi. Seulement, l'énumération du prophète n'est pas terminée. Décidément, il est inépuisable, il est impitoyable, car la redoutable formule se fait encore entendre, mais cette fois à l'égard de Juda et d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Ainsi, par la bouche de son prophète, Dieu explique pourquoi il va punir. Le Dieu d'Amos est un Dieu de justice, et le châtiment du peuple élu sera d'autant plus sévère que son privilège a été grand d'avoir été choisi par Dieu. La civilisation, d'apparence florissante, recouvrait de grands désordres. Dans le domaine social d'abord, les riches se vautraient dans un luxe d'autant plus intolérable qu'ils s'étaient enrichis aux dépens des autres. Et ces autres étaient les pauvres. Amos annonce la ruine prochaine de leurs maisons d'été et de leurs maisons d'hiver, ainsi que de leurs palais d'ivoire. Il s'élève contre les femmes riches et insatiables qui ne savent que recevoir ce que leur mari peut leur apporter et qui ne connaissent pas le verbe partager, tandis que les misérables sont opprimés et les indigents sont écrasés. Ces femmes qui encouragent leur mari au mal, le prophète les appelle avec sarcasme des génisses de Bazan. Les créanciers réduisent leurs débiteurs en esclavage et leur extorquent des gages. Les marchands méditent leur tromperie pendant le jour de repos. Ils falsifient les poids et les balances. Amos les considère comme de véritables mangeurs de pauvres, qui ont changé la droiture en poison. Leur condamnation est terrible. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Bientôt après, en effet, Juda et Israël seront déportés en Babylonie et en Assyrie. Samarie et Jérusalem seront anéantis. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Jacques devra, hélas, dénoncer avec une semblable véhémence les riches jouisseurs et insouciants de son temps et de tous les temps, jusqu'à la fin des temps. Écoutez comment il les interpelle. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il nous faut dire ici que la désignation et la dénonciation des riches est chose toute relative, surtout à notre époque. Bibliquement et absolument parlant, être riche, c'est avoir plus que ce qu'il faut pour vivre. Dans cette perspective, le cercle des riches devant Dieu s'élargit considérablement. Comme on peut s'en douter, ce désordre moral avait atteint le peuple jusque dans sa religion, pour autant qu'on puisse distinguer la vie sociale de la vie religieuse. Oh, certes, la vie religieuse était brillante, fastueuse, spectaculaire. Certes, on observait les fêtes et on respectait les rites régulièrement. Mais quelle pouvait être la valeur de cette religion, d'ailleurs purement rituelle et formaliste, si la vie de tous les jours s'enfonçait de plus en plus dans le mal? Bethel et Gilgal étaient les principaux sanctuaires du peuple où se déroulaient les fêtes somptueuses. « Allez à Bethel et péchez, leur crie le prophète. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. » Le culte qu'offrait le peuple en ces lieux était doublement vain aux yeux de Dieu, d'abord parce que certaines pratiques païennes y étaient tolérées, ensuite parce que le peuple se figurait qu'au moyen de ces cérémonies, ils pouvaient s'assurer la protection de Yahvé, malgré le désordre de leur vie. C'était une fausse sécurité. Le mot « Beth-El » signifie « maison de Dieu ». Par un jeu de mots cinglant, Amos l'appellera « Beth-Aven », ce qui signifie « maison de rien », maison d'idolâtrie. « Je hais, je méprise vos fêtes, dit-il encore. Je ne puis sentir vos assemblées, et c'est le Seigneur qui parle par sa bouche. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends point plaisir. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Dans son langage pittoresque, Amos dira encore « Qu'entendez-vous du jour du Seigneur ?» Vous vous imaginez sans doute que Dieu vous bénira à cause de vos fêtes et de vos offrandes et de vos cérémonies. Vous croyez que vous pouvez ainsi acheter la miséricorde de Dieu tout en continuant de vivre dans le désordre? Hypocrite que vous êtes, en ce jour, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Singulièrement, nous avons l'impression que le prophète n'est pas tellement éloigné de nous. Il ne serait pas du tout anachronique d'appliquer son jugement à notre temps. Je pense à tous ces gens qui, aujourd'hui, se servent de la religion comme d'une formule magique pour éloigner le mauvais sort. Je pense à tous ceux qui s'imaginent qu'il suffit d'assister à quelque office religieux spasmodiquement au cours de l'année pour s'assurer le droit d'entrer au paradis, si par hasard il y en avait un. Je pense à l'étudiant qui néanmoins continue de tricher, au commerçant qui néanmoins vole ses clients, Au patron qui frustre ses ouvriers de leur juste salaire, à l'ouvrier qui par paresse vole son patron, à ceux qui feignent de ne pas voir la misère autour d'eux et à côté d'eux, à l'homme politique qui veut servir ses propres intérêts à n'importe quel prix, à ceux qui n'ont jamais rien fait de mal, mais qui n'ont jamais rien fait de bien, à ceux qui ne pensent qu'à recevoir et qui ne donnent jamais, à ceux qui par le mensonge, la calomnie, la médisance brisent des vies, à ceux qui nourrissent des amertumes et des projets de vengeance. Je pense à tous ceux-là, qui pourtant se disent chrétiens et qui agissent et pensent comme des païens. Qu'attendent-ils du jour du Seigneur tout cela? Comme pour les contemporains d'Amos, seul un changement radical de vie peut sauver. Mais sur quelle base opérer ce changement? Osée, prophète contemporain d'Amos, déclare que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre monde religieux souffre du même mal, provoqué par les mêmes causes. Il importe que chaque croyant retourne à la source du christianisme, c'est-à-dire à la Bible, pour y retrouver un langage vigoureux, certes, mais indispensable et salutaire. Il est vrai qu'il existe de nombreux croyants sincères dans le monde, mais nous pouvons affirmer que la foi de ces croyants ne peut demeurer saine sans un contact réel avec la parole de Dieu, appelée à juste titre « parole de vie ». Amos disait « Cherchez l'Éternel et vous vivrez. » Or, où peut-on chercher l'Éternel et le trouver, si ce n'est dans sa parole, où il se révèle aux hommes? La destinée d'un homme dépend de ce qu'il recherche durant son existence. Pour utiliser une image biblique très belle, un homme ne peut moissonner que ce qu'il a semé. « Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Les contemporains d'Amos avaient choisi de servir leur propre ventre, au lieu de servir leur Créateur. Le prophète leur a prédit la ruine, ainsi qu'à ceux qui leur ressemblent. En ce jour-là, dit-il, leurs efforts pour se sauver seront dérisoires. Ils seront semblables aux bergers qui n'arrachent de la gueule de lion que deux jambes et un bout d'oreille. J'espère que ces quelques remarques vous auront aidé à apprécier ce personnage pittoresque qu'était Amos, et de trouver dans sa prophétie, un message pour notre temps.